Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, c'est extraordinaire, ça.
Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir.
Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert?
Regardez.
Qu'il est con.
Hein? La mouche qui pète.
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, mais c'est quand même, l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris ?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de toutes les rivalités et surtout celles qu'on invente. Aujourd'hui, c'est la guerre du LOL avant qu'on dise LOL, puisqu'on va se faire bagarrer deux bandes de comiques qui nous font marrer depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, le combat oppose les nuls aux inconnus. Pour mener à bien ce combat, je reçois quelqu'un qui s'y connaît en tout ce qui est rigolo, en la personne de Hugo Alexandre. Salut Hugo, comment ça va ?
Salut Martin, ça va très bien. Et toi ?
Bah écoute, ça va bien. Je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui.
Possible, ouais.
Avant de parler un petit peu plus du sujet, de rentrer dans l'affrontement, je voudrais juste redire que C'est qui le plus fort s'enregistrera en public le 18 décembre à Paris, dans les locaux du Tank Media, et que vous trouverez le lien pour réserver votre place en description de cet article. Alors Hugo, dis-moi, je sais que tu aimes les deux, les nuls et les inconnus. Qu'est-ce qui t'a quand même donné envie de donner vie à cet affrontement ? Est-ce que c'est pas trop un crève-cœur pour toi ?
Si, ça va être très 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 difficile, mais bon, c'est un cas assez rare, c'est deux bandes d'humoristes qui ont opéré à la même époque exactement. Ils ont commencé à peu près dans les années 80, 84, 85. Et en fait, ils ont vraiment jamais lutté frontalement, mais ils ont un peu façonné le paysage de la comédie française à partir des années 90. Ils ont influencé beaucoup de monde, chacun de leur créneau. Et donc, c'est vraiment une bagarre. Enfin, c'est une bagarre théorique, mais qui est très intéressante, je pense, à mener.
Bon. Quand je disais que tu t'y connais en tout ce qui est rigolo tout à l'heure, est-ce que tu te sens d'expliquer mon jeu de mots?
Oui, excellent. Eh bien, je suis co-créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, dont le programme principal s'appelle Rigolo, dans lequel on décortique les comédies françaises, donc sur des formats d'à peu près 10 minutes où on part d'une comédie française, et ça nous permet de dérouler un peu le fil du contexte social de l'époque, de qui sont les gens qui ont fait les films, quels sont les procédés comiques qu'ils mettent en œuvre, etc. Donc on a fait notamment un épisode sur La Cité de la Peur, le film des nuls. On n'a pas encore fait d'épisode sur Les Inconnus, ça ne saurait tarder. Donc voilà, si vous voulez nous retrouver, donc vous cherchez Rigolo sur YouTube ou Calmos. Le nom de la chaîne, c'est Calmos.
Ok. C'est également le nom de la newsletter.
Voilà, car au départ, c'est une newsletter qu'on envoie toutes les semaines, tous les jeudis matins à tous nos abonnés. C'est gratuit. Où on parle de cinéma en général, donc des films de la semaine ou de films plus anciens. On a aussi des petits jeux, des rébus, des choses, comme un petit télé 7 jours du cinéma. Quoi. Ouais.
Et dans Calmos, et dans Rigolo, vous n'avez pas encore parlé de Philippe Lachaud. Ça, c'est quelque chose que tu fais plutôt chez MDR.
Oui, alors je suis aussi chroniqueur chez MDR, donc le podcast qui chronique les comédies françaises qui viennent de sortir. Donc c'est des débats en one-to-one, présidé par Daniel Andraïef. Et voilà, non, on n'a pas encore fait d'épisode sur Philippe Lachaud, mais c'est un sujet d'étude intéressant aussi, je pense qu'on finira par en parler.
Je pense qu'on va en reparler aussi aujourd'hui, forcément. Très bien, écoute, bah, tu avais commencé un petit peu à présenter les nuls et les inconnus, est-ce que tu te sentirais d'en dire un petit peu plus sur chacun avant qu'on les fasse se taper dessus ?
Ouais, alors, donc les nuls, au départ, c'est quatre humoristes, Chantal Lobby, Alain Chabat, Bruno Carette et Dominique Farrugia, qui n'ont pas vraiment une formation d'humoriste. Enfin, au départ, c'est des animateurs télé à peu près tous. Chantal Lobby, Bruno Carette, ils se sont rencontrés à FR3, Côte d'Azur, je crois, un truc comme ça. Chabat, il a été animateur radio d'abord, puis il a été animateur à Canal+, à ses débuts, en 84. Et Farrugia, lui, n'était même pas animateur, il faisait un petit peu tout à Canal+, il faisait du montage, il faisait assistant de production, des choses comme ça. Et en fait, le groupe s'est formé en 87 pour un programme qui s'appelle Objectif Nul, qui est une parodie des séries de science-fiction du genre Star Trek. Et au départ, Farrugia était scénariste de cette série. Et il y avait Chantal Lobby, Chabat et Carette, plus deux autres mecs qui s'appellent Alexandre Potier et Jean Guiruf. Et il faut leur rendre hommage quand même. Et donc, cette série a plutôt marché. Donc après, ils ont créé plein d'autres petits programmes, comme le JTN, qui est une parodie de JT, l'ABC des nuls. Bruno Carette est décédé en 89, hélas. Et ensuite, ils ont créé Les Nuls, l'émission. Et c'est là où ils ont vraiment commencé à cartonner. C'était une émission en direct toutes les semaines, qui était à peu près le Saturday de Night Live à la française. Et voilà. Et en fait, cette émission a eu un rythme tellement fatigant qu'ils ont arrêté la télé au bout de deux ans. Et puis, chacun a commencé sa carrière et se sont reformés en 94 pour faire un film que tout le monde connaît qui s'appelle La Cité de la Peur. Voilà. Et après, ils ont pris des chemins séparés. Bon, après, ils se sont retrouvés pour Astérix, par exemple. Enfin, Chantal Lobby, Alain Chabat, notamment. Et les projets se sont toujours un petit peu croisés. Mais vraiment, le summum de leur carrière, c'est La Cité de la Peur.
Finalement, c'est un peu une étoile filante, quand même.
Bah, c'est vrai. Enfin, en fait, ça a duré de 87 à 94, une dizaine d'années, quoi. Ouais. Mais l'esprit nul a continué à infuser à travers les films. Et puis, pas des films que deux. Il y a eu les Robins des Bois, qui sont vraiment beaucoup, pas inspirés, mais enfin, ils sont quand même tenants de cet esprit... Même l'esprit canal en général, l'esprit nul, ça rejoint l'esprit canal, qui est un truc qui existe toujours aujourd'hui avec le Burger Quiz, avec des choses comme ça, qui n'est plus du tout sur Canal+.
Ouais. L'esprit canal est-il toujours sur Canal? Vous avez deux heures.
C'est une bonne question.
Ouais. Ok. Et alors, leurs compères du service public, les inconnus, qui sont-ils?
Alors, les inconnus, à l'inverse, c'est vraiment des gens qui ont des formations de théâtre, de comédien. Ils ont commencé au Petit Théâtre de Bouvard en 84. Enfin, ils faisaient déjà du théâtre avant et ils se sont rencontrés là. Et ils se sont rencontrés, c'est pareil, ils étaient cinq au départ. Il y avait Smine et Seymour Bruxelles qui étaient aussi au Théâtre de Bouvard. Ils ont quitté le Théâtre de Bouvard pour faire de la scène. Ils ont créé un spectacle. Alors, au moment où ils ont créé le spectacle, Smine était parti. Et en fait, avant de faire un spectacle, ils ont fait un film. Qui a été très peu vu en fait et qui est pourtant le film où il y a tous les cinq.
D'accord.
Qui sont devenus les inconnus après, qui s'appelait Les Cinq à l'époque d'ailleurs.
D'accord. Ça s'appelait
pas encore Les Inconnus.
Ouais.
Et c'est une parodie de film noir en fait, un film mystérieux où il y a une enquête. C'est un petit peu la Cité de la Peur des Inconnus finalement.
D'accord.
Et
il s'appelle comment ce film du coup?
Alors ça s'appelle Le Téléphone Sonne Toujours Deux Fois.
Ah oui, d'accord.
Film de 85. Donc après ça, Smine a quitté le groupe. Ils ont continué à faire de la scène. Ils ont fait une émission sur Europe 1 qui s'appelle Les Inconnus de l'après-midi.
D'accord.
Après quoi, Seymour Bruxelles est parti pour devenir ostéopathe, naturopathe ou quelque chose comme ça. Donc il est parti dans totalement autre chose. Et c'est là où ils sont devenus Les Inconnus.
D'accord.
Et où ils ont lancé à la télé, sur Antenne 2, La Télé des Inconnus. Donc, qui n'est pas du tout le même format que Les Nuls, l'émission, que les autres émissions des Nuls. C'était à peu près tous les six mois. Et c'était une grande émission de 2-3 heures où c'était des parodies extrêmement écrites, extrêmement mises en scène. Donc, des parodies de pubs, d'émissions télé, de chansons. Ils ont sorti des albums de chansons aussi, qui ont pas mal marché. Et eux aussi, ils ont fini par faire du cinéma. Donc, avec notamment Les Trois Frères en 95. Et malheureusement, ils ont dû se séparer après les trois frères pour cause contractuelle. Et faire chacun des films de leur côté. Alors, Bourdon et Campan, ils ont fait Le Paris. Légitimus, il a fait Antilles sur scène. Ils ont fini par se reformer après que ces questions de contrat aient été résolues. Et ils ont fait Les Rois Mages.
Ah oui.
Et Les Trois Frères 2 plus récemment.
C'est vrai. J'avais oublié Les Rois Mages.
Ouais. Alors moi, j'aime bien Les Rois Mages, par contre.
D'accord, ok.
Bon, on en reparlera
plus. Non, mais j'avais oublié. C'était pas forcément une vanne, mais j'avais oublié. Ok, bon, bah écoute, c'est bien. Déjà, on voit à peu près qui est qui, parce que dans l'inconscient collectif, c'est pas évident de voir toutes ces différences, en fait. C'est pas du tout la même approche, en vrai.
En fait, on voit que c'est vraiment une lutte théorique, parce que c'est... Ouais, ils font pas du tout le même genre de... Enfin, si, ils pratiquent la parodie, par exemple, mais pas tout à fait de la même manière, et ils ont pas la même formation, ils font presque pas le même métier au départ.
Ouais.
Et le truc, c'est qu'effectivement, ils ont débarqué dans les années 80, et c'était vraiment les bandes d'humoristes phares de cette époque, et on avait presque jamais vu ça. Peut-être les Charlots versus le Splendide, mais c'est quand même autre chose, quoi. Et puis c'était moins frontal, ouais, comme opposition.
Mais il y a toujours un moment où, à la machine à café, tu dis « Tiens, ce week-end, j'ai rematé mes DVD des nuls », et puis t'as quelqu'un qui a dit « Oh, moi, je préfère Les Inconnus ».
Ouais, c'est vrai.
Donc là, vous pourrez... Lundi, après avoir écouté ce podcast, vous pourrez aller voir votre collègue et lui dire « Non, tu as tort parce que... »
Vous aurez des billes, ouais. Non, il y a aussi que l'opposition est devenue réelle parce que il y a eu un article notamment qui relayait des propos de Farrugia disant... Bon, c'est Farrugia qui avait tweeté un truc sur les trois frères d'eux en disant « Bon, c'est pour payer leurs impôts ». Et Bourdon était monté en créneau en disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les nuls dans leur vie nous, on a un César, un Molière, machin ». Il y a peut-être aujourd'hui une opposition qui existait peut-être moins à l'époque. Mais de manière plus...
C'est marrant parce qu'en général, quand c'est comme ça, c'est au début la rivalité et puis après ils deviennent copains, eux c'est le contraire.
Ouais. Et pourtant, ils ont parfois tourné ensemble. Farrugia a produit un film de Didier Bourdon qui est 7 ans de mariage, c'est son premier film en solo.
D'accord.
Donc finalement, à l'époque, en plus c'était Bourdon et Farrugia, donc ils s'entendaient bien à l'époque.
Ouais.
Ça a dû changer.
Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se permettent de s'alpaguer comme ça un peu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas.
Ouais, mais ça avait l'air assez violent quand même. Hein. Enfin, ça semblait pas de l'humour.
Ok. Eh ben, allez, place au combat.
Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur?
Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire.
Ouais, bien sûr.
Il tire.
Et le bon chasseur?
Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais...
Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard.
Première question, premier round, premier affrontement. Qui a eu le plus de succès avec son émission de télé respective?
Alors, encore une fois, c'est difficile de comparer ce qu'ils ont fait. Enfin, les Inconnus, il n'y a eu qu'une émission, en gros. Enfin, il y a eu des petits trucs, mais en gros, il y a eu la télé des Inconnus. Donc, qui était une émission vraiment événementielle à peu près tous les 6 mois. Les Nuls ont fait beaucoup de choses, mais leur émission phare, c'est Les Nuls, l'émission, qui était une hebdo en direct. Donc, c'est difficile de comparer les audiences. Cela dit, on peut quand même donner les chiffres.
On est là pour ça.
La télé des Inconnus, c'était entre 7 et 10 millions de spectateurs à chaque fois, ce qui est énorme. Alors, les Nuls, j'ai pas les chiffres. Mais c'était sur Canal+, qui était la chaîne qui montait. C'est quand même pas comparable au niveau des audiences. Donc je pense que quand même, au niveau de l'aura, du succès, c'est les Inconnus qui gagnent. Et d'accord. En plus, quand on regarde aujourd'hui sur YouTube les vidéos des Inconnus versus les vidéos des Nuls, les vidéos des Inconnus ont beaucoup plus de succès.
Par exemple, d'accord.
Les Chasseurs, c'est 8 millions, donc il y a un sketch des Inconnus, c'est 8 millions de vues sur YouTube. Et la meilleure vidéo des Nuls, c'est la pub Quizcas qui doit faire 2 millions à peu près.
Ah, j'espérais que c'était la mouche qui pète, mais...
ça doit pas être franchement. On va être autour du million, je pense, pour la mouche qui pète. Donc voilà. Après, on peut aussi comparer le succès en termes de reconnaissance par la profession. Et à l'époque, il y avait un indice très,
les
très important
d'or,
qui était les 7 d'or.
Oh, le truc que les moins de 30 ans connaissent pas.
Voilà, donc les 7 d'or, ça récompensait les meilleures émissions de télévision, les meilleurs animateurs, etc. Et donc la télé des inconnus a eu un 7 d'or, de la meilleure émission spéciale.
D'accord.
Et les nuls ont eu 3 7 d'or.
Ah.
Ouais, elle a pour 3 émissions différentes. Donc Objectif Nul, TVN 595, qui était une parodie d'une chaîne de télé. Donc sur 24 heures, je crois. Enfin, je ne me souviens plus très bien, mais c'est à peu près ça. Et les nuls, l'émission. Donc en fait, par la profession, ils étaient potentiellement plus reconnus.
C'est intéressant, c'est vrai qu'on a cette image de les inconnus comme ayant plus de succès populaire. Je parle vraiment de la télé, hein, pour le coup, pas du cinéma. Et les nuls, c'était les trucs un peu plus... à l'époque, on disait pas bobo, mais peut-être le truc des abonnés Canal, des gens un peu poches qui avaient leur abonnement et qui commençaient à regarder des films en VO à la 8e diffusion.
Mais je pense que c'est vrai, ça a toujours été plus ou moins le cas. Les inconnus sont plus populaires au sens, dans tous les sens du terme, je pense.
Ouais.
Donc, en termes de succès public, je pense que c'est vraiment les inconnus qui gagnent.
Bon, bah, ma foi, ça fait 1-0 hein, pour les inconnus.
Votre chaton est plein de vie et ça, Quizcas l'a compris. C'est pour ça que Quizcas chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient Quizcas. Ils se lèveraient sur leurs petites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Quizcas. Au lieu de ça, les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats.
Deuxième question, alors là c'est un peu du, je vais pas dire du révisionnisme, mais pas loin. On va regarder ce qu'ils faisaient à l'époque, bon, toujours en télé, hein, et on va se poser la question, qu'est-ce qui a le mieux vieilli en fait? Qu'est-ce qui passe le mieux encore maintenant? C'est hautement subjectif, mais, mais on a le droit.
Il y a plusieurs choses. Alors par exemple, il y a un truc qui partagent tous les deux, c'est les blackface. C'est c'est fait ça. C'est impossible de faire ça aujourd'hui et de pratiquer tous les deux allègrement.
Ouais. Il y avait Pascal Légitimus. C'était Pascal Légitimus en général qui s'y collait, non, chez les inconnus.
Ouais, mais chez les inconus, par exemple, t'as le sketch de l'hôpital.
Ouais.
Tous les trois.
Celui-là, par exemple, il serait compliqué à refaire aujourd'hui.
Ça serait compliqué aujourd'hui. Là, après, chez les nuls, ils faisaient des parodies de. Je crois qu'il y a une parodie Starsky et Hutch où ils sont quasiment tous en blackface.
D'accord.
Donc il y a plein de choses comme ça qui ont un peu vieilli, et aussi la manière de traiter le sujet du viol ou des choses comme ça qui étaient pour les deux très très marquées dans une époque, disons.
Ouais.
Après il y a des choses c'est-à-dire que les inconnus ils faisaient un humour qui était plus politique entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient des références politiques. Par exemple, il y avait une parodie d'une chanson enfin, c'était une parodie mixée d'une chanson de Patrick Bruel et de Florent Pagny.
Florent Brunel.
Où il dénonce. Enfin, c'est un mec qui dénonce, enfin, qui fait mine de dénoncer, alors qu'en fait, il dit bah, finalement, Jean-Marie Le Pen, il dit pas que des conneries. Finalement, Bérégovoy, il est sympa. Mais quand tu vois les références, du coup, c'est Jean Le Canuet, Bérégovoy et tout. Donc, c'est tout ce genre de truc qui a vieilli. Et beaucoup de leurs sketchs, c'était sur des trucs très ancrés dans l'époque, sur, sur les personnalités politiques de l'époque, sur les émissions de l'époque aussi. Ils parodiaient des pubs et des émissions dont on n'a plus les références aujourd'hui. C'est un peu le cas avec les nuls. Mais comme ils ont moins ce côté politique, c'est de l'humour un peu plus... instinctif, qui n'est pas forcément lié à des références. Ça peut arriver, ça pouvait arriver pour des pubs précises. Par exemple, dans de la Cité de la Peur, à un moment, il y a une parodie d'une pub Cacharel. Les gens qui sont assez âgés se souviennent de quoi il est question, mais quand tu vois le truc aujourd'hui, tu te dis, tu comprends même pas la scène.
Ouais.
Mais je pense que c'est quand même... Il y a plus de sketchs des inconnus qui sont plus compliqués à voir aujourd'hui pour la raison que les références sont datées, quoi.
Je rebondis sur ce que tu disais, c'est aussi une de leurs grandes différences, c'est peut-être, tu parlais de sketchs très écrits chez les inconnus, préparés longtemps à l'avance, avec, avec aussi des personnages incarnés. Là où les nuls, il y avait peut-être beaucoup de d'humour non sensique et de choses instinctives, de choses un peu absurdes.
Ouais. Mais en plus, il devait faire, je sais pas combien de minutes de sketch par semaine. C'est-à-dire, ça représente peut-être 30 minutes de sketch par semaine. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de matière aussi. Mm. Donc, potentiellement, des choses qui faisaient rire à l'époque et qui font toujours rire aujourd'hui. Mm. Alors que la télé des inconnus, c'était que de la parodie finalement. Mm. Donc ouais, il y a aussi cet aspect-là. Et moi, je pensais à un autre aspect aussi, c'est que, je dirais que les nuls sont encore aujourd'hui sont plus woke. Alors, quand tu vois le Burger Quiz, c'est vraiment un humour qui est totalement 2019 entre guillemets. C'est ouais. Ils ont mieux évolué, je trouve. Mm. Et les inconnus. Et alors, il faut savoir que Didier Bourdon, il a fait une chanson en 2005 qui s'appelle On ne peut plus rien dire.
Ah oui, c'est vrai.
Et voilà, les nuls correspondent mieux à notre époque que les inconnus, je trouve. Et ça a toujours été le cas.
Ok. Donc les inconnus ont eu plus de succès. Les nuls ont eu des émissions qui ont mieux vieilli, des sketchs qui ont mieux vieilli. Donc ça fait un partout.
La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage. Une équipe des FR3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier. Les policiers, des hommes comme les autres.
Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix.
Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix.
Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout.
Mais qui sont-ils, ces hommes ?
Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout.
Troisième question, troisième round. Qui a le mieux réussi au cinéma ?
Finalement, il y a peu de films où on les retrouve tous d'un côté ou de l'autre. Du côté des inconnus, alors il y en a un petit peu plus. Il y a Le téléphone sonne toujours deux fois, qui est une sortie assez confidentielle, en fait. Ça a fait à peu près 500 000 entrées, ce qui est pas fou pour une comédie, mais ils n'étaient pas vraiment connus à cette époque-là. Après, il y a eu Les Trois Frères, Les Rois Mages et Les Trois Frères 2. Alors, Les Trois Frères, ça a fait 7 millions d'entrées, donc c'est vraiment un carton. Mmh. Les Rois Mages, ça tournait autour de 2 millions et Les Trois Frères 2 aussi, ce qui est un score honorable, mais qui n'a rien à voir avec quelque chose comme Les Trois Frères, c'est vraiment dans le top, quoi. Les nuls, c'est en fait il y a un seul film où ils sont tous les trois, c'est La Cité de la Peur, et ça a fait 2 millions d'entrées.
D'accord.
Donc en termes de succès objectif, c'est quand même les
inconnus
qui gagnent. Après, il y a eu le film d'Alain Chabat, Astérix, qui a fait je crois 15 millions d'entrées, quelque chose comme ça, 14
ouais.
millions d'entrées. Mais est-ce que ça compte dans la bagarre?
Oui.
Oui, ça compte.
Non, ça compte pas. Par rapport à tout ce qu'on dit là sur le cinéma, il y a une question que vous devez vous poser et qu'on se pose aussi, à vrai dire, un petit peu. C'est quid du cinéma post-nul et post-inconnu ? Alors, pour pas spoiler, après on a un point, le post-nullisme et le post-inconnusisme. Donc on va dire qu'on comptera les points du cinéma post-les nuls et post-les inconnus dans le round suivant, mais on va quand même, je pense, dire un mot maintenant sur leur carrière cinématographique, post-la Cité de la Peur et post-les Trois Frères à tous les deux,
ouais.
Si ça te va.
Et alors après, il y a encore des sous-ensembles.
Ouais,
c'est les carrières en tant que réalisateur, en tant
c'est
que
ça.
Scénariste, en tant qu'acteur, producteur.
Bah, le nulverse et le inconnuverse sont larges.
Alain Chabat a fait Astérix, qui a fait 14 millions d'entrées.
Ouais.
Chantal Lobby a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait, je ne sais plus combien, plus de 10 millions.
Ouais.
Alors que Les Inconnus, ça a eu tendance à plutôt baisser. Mmh. Campan, il tourne plus tant que ça. Mmh. Il tourne plutôt des drames ou des comédies dramatiques qui n'ont pas un succès énorme. Il y a eu Le Cœur des Hommes. Alors, je connais pas le score exact, mais bon, ça doit être pas mal quand même.
Il y en a eu trois en plus, non? C'est ça, je crois.
Oui, il y en a eu trois. Bourdon, il a fait quelques films, mais le succès a eu tendance à s'amenuiser en tant que réalisateur. En revanche, il redevient vachement bankable en ce moment. C'est-à-dire,
ouais.
il tourne chez Philippe Lachaud, justement. Il a fait L'Épreuve 2.
Ouais.
Donc, c'est un peu serré quand même. Si on prend le nulverse et l'inconnuverse en extenso, C'est compliqué à dire. Moi, je serais quand même d'avis de dire que Les Nuls, c'est les films des nuls où ils sont tous les trois. Et Les Inconnus, c'est les films des inconnus où ils sont tous les
pour,
trois.
Pour trancher le point, ouais. Ok,
après,
ça me va.
Après, est-ce que la réussite objective en termes de box-office est la réussite?
Alors, ça, moi, je sais pas. J'allais te poser la question. C'est-à-dire, j'avais mis qui a le mieux réussi, mais on a le droit de se dire est-ce qu'on se pose la question du succès ou est-ce qu'on se pose la question. Ou du succès critique aussi, parce qu'on pourrait aussi regarder ça, ou ce que toi t'en penses tout simplement, qui a fait le meilleur film. Allez, allez, allez. Quel est le meilleur film? C'est les Trois Frères ou La Cité de la Peur?
Alors moi si je donne mon avis subjectif, je pense que c'est les Trois Frères.
D'accord.
Parce que je suis assez attaché à cette tradition de la comédie française sociale, avec des personnages de losers... un petit peu politique, ce que n'est pas du tout La Cité de la Peur, mais que j'adore aussi, hein, je précise, qui a un humour plus anglo-saxon, plus inspiré par les Monty Python, Mel Brooks, etc. Après, La Cité de la Peur, je pense qu'elle a eu un retentissement, encore aujourd'hui, qui est supérieur aux Trois Frères. C'est-à-dire que c'est un film culte, vraiment, qui a été diffusé à Cannes... Au dernier festival de Cannes, ça n'arriverait pas aux Trois Frères, je pense. Je pense qu'il y a plus de répliques cultes dans Les Nuls. Je pense que ouais, c'est plus resté dans l'inconscient collectif, à mon avis, que Les Trois Frères. Mais pour être subjectif, je préfère Les Trois Frères. Et ça a eu plus de succès objectivement aussi.
Très bien.
Donc
tu donnes le point du cinéma aux inconnus, alors?
Ouais.
Ok. Bah c'est toi qui décides, hein, t'es invité, ouais, t'as le droit. Moi, je suis ton jugement.
Je suis ouvert au dialogue.
Très bien, donc le point du cinéma va aux inconnus et ça nous fait 2-1 pour les inconnus.
Stop ! N'avancez plus, Bialès. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Et ce coup-ci, plus de tapette pour vous sauver.
Je veux que monsieur est commissaire de police.
Tu bluffes, Martini. Il bluffe.
Pas sûr.
Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
Non, il a pas l'air de bluffer là quand même.
Si, il bluffe là.
Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote, moi je vote et je dis il bluffe.
Ça suffit! Vous essayez de gagner du temps.
Non.
Bon, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute!
Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
Aïe! On vous a un petit peu teasé le point là qui vient. On a intitulé ça le post-nullisme et le post-inconnuisme, ou le post-inconisme, comment faudrait-il dire ?
Inconnusisme,
le post-inconnusisme. En gros, les carrières solo après Les Nuls et après Les Inconnus, donc grosso modo après 94-95, si j'ai bien suivi ta chronologie, bah, qui s'en est le mieux sorti en fin de compte ?
Alors, bon, bah, on va détailler les carrières de chacun. On va pas y couper. Hein. Alors, Didier Bourdon, bah, il a continué à réaliser des films tout seul. Alors, déjà, il a réalisé des films avec Bernard Campan, qui sont le Paris et l'Extraterrestre.
Il était réalisateur aussi sur ces films-là?
Ouais.
D'accord.
Ouais, ouais.
Okay. Ah oui, l'Extraterrestre. En fait, j'ai confondu l'Extraterrestre et les Rois Mages, en fait.
Ah oui, bah c'est... Alors les Rois Mages, c'est réalisé par Bourdon et Campan, je crois, mais ils sont tous les trois. Alors que okay. C'est extraterrestre. Je me demande si Légitimus fait pas un petit rôle. Juste,
d'accord.
Mais... Voilà. Donc c'est... Alors de mémoire, le Paris a très bien marché et l'Extraterrestre un peu moins. Mmh. Et en fait, Bourdon a fait des films tout seul après, qui ont de moins en moins marché. Donc il y a eu 7 ans de mariage qui a fait 1,6 million, Madame Irma qui a fait 600 000 et Bambou qui a fait 140 000 entrées. Donc il a arrêté, là.
D'accord.
Il est passé à autre chose.
Bambou, je vois même pas ce que c'est en fait.
C'est sur un chien, je crois. C'est avec Mathilde Seigné, de mémoire.
Ok.
Il est question d'un chien. J'ai pas vu le film.
Si même toi tu l'as pas vu,
pas c'est que... des 140 000.
Ok.
En revanche, en tant qu'acteur, il est, comme je disais, il est vraiment, il est bankable aujourd'hui.
Ouais.
Pour des films à succès et aussi pour des films plus intimistes, comme, comme Jackie au Royaume des Films, ouais. des filles par exemple, de Riette Sattouffe.
Je crois que c'est peut-être mon Didier Bourdon préféré en tant qu'acteur.
Ouais. Mais Riette Sattouffe dit que je crois que Didier Bourdon est son acteur préféré, il est vraiment fasciné par lui, il l'adore. Et... Ouais, donc en fait, il a une certaine aura aussi de la part de réalisateurs plus comment dire, plus intellectuels, disons.
Ouais.
Après, Campan, c'est un autre délire, parce que lui, il a décidé de faire plus des films dramatiques. Donc, il a fait Se souvenir des belles choses. Il a tourné chez Blier, Combien tu m'aimes, Le cœur des hommes, on en parlait. Et ces dernières années, je crois qu'il se concentre plus sur le théâtre.
Oui.
Donc, il fait sa petite carrière dans son coin. On peut pas dire qu'il soit vraiment sur le devant de la scène, mais voilà, il poursuit son bonhomme de chemin. Et Légitimus, c'est un peu pareil. Il a fait un film qui s'appelle Antilles sur scène, qui a pas très bien marché, qui a fait 400 000 entrées. Il a fait des petits rôles par-ci par-là, mais je pense que c'est pas vraiment le cinéma c'est pas vraiment son truc. Il a fait beaucoup de scènes, par contre il a un one man show qu'il a fait pendant quelques années,
d'accord,
plusieurs pièces, et il a mis en scène des humoristes aussi,
d'accord,
il a mis en scène Élie Dieudonné,
d'accord,
il a mis en scène Pierre Palmade, et il a mis en scène tous les spectacles de Laurent Ruquier,
ok,
à l'époque où Laurent Ruquier faisait de la scène.
Le trivia que j'avais pas vu venir.
Ouais, non, c'est vraiment. Il a fait un peu de tout, quoi.
D'accord.
Et ouais, voilà. Donc lui, c'est pareil. C'est, il fait son petit truc dans son coin. On peut pas dire qu'il soit sur le devant de la scène.
Ok.
On passe au nul.
Ouais.
Donc Chabat, je pense que c'est vraiment lui qui s'en sort le mieux.
Ouais.
Donc il a fait Didier, qui a fait 3 millions d'entrées, qui a gagné un César de la meilleure œuvre.
D'accord.
Meilleure première œuvre, pardon.
Ok. Il était réal sur Didier.
Réal, scénariste, acteur principal.
Il n'a pas eu le César du meilleur acteur.
Non, il a été nommé 4 fois sous le César du meilleur acteur, il ne l'a jamais eu.
Mais pas pour Didier, du coup.
Pour Didier, je ne sais pas.
Ça aurait été génial qu'il ait le César du meilleur acteur pour Didier.
C'est,
mais...
pas, c'est pas impossible, en fait. Il faudra vérifier, mais...
Ouais. Il fait un homme qui se prend pour un chien, pour rappeler.
C'est une belle performance. C'est un rôle de composition. Cela dit, il avait beaucoup fait les chiens.
Oui, c'est vrai.
Il a fait Royal Rabbin, machin.
Encore un truc qu'on ne pourrait plus faire.
Ouais. Oui, c'est vrai. Attends, il a plusieurs trucs. Il aime beaucoup faire les chiens.
Oui, oui.
Chabat. Donc après, il a fait Astérix, 15 millions d'entrées.
Ouais.
Il a fait Rrr, qui a été donc le film avec les Robin des Bois à la préhistoire, qui a été éreinté par la critique, mais qui a quand même fait 2 millions d'entrées. On a l'impression que ça a été un four énorme, mais en fait non, je pense que c'est rentré dans ses frais largement. Et il a fait Le Marsupilami, dont on parle pas beaucoup non plus, qui a fait 5 millions d'entrées. Il a
quand
fait
même.
Santa et compagnie il y a 2 ans. C'est vrai que ça marche moyennement pour une grosse comédie populaire, mais c'est pareil, ça a encore fait 2 millions d'entrées. Donc comme réalisateur, il a quand même du succès à chaque fois, quoi. Il s'est jamais planté. Et comme acteur, on le disait, il a eu 4 nominations au César. Il tourne des films très populaires et des films plus des films d'auteur aussi. Il tourne chez Dupieux, il tourne chez Agnès Jaoui, chez Gondry. Et il continue à avoir des projets tout le temps. Donc, il a le Burger Quiz, dont il écrit les questions. Il anime de temps en temps. Il doit produire aussi. Donc, c'est vraiment un artiste plein. Et c'est vraiment celui qui s'en sort le mieux. C'est lui qui domine le game, disons.
Et puis, il a quand même une aura assez incomparable, je pense.
Ouais, il est très, très aimé. Voilà pour Chabat. Ensuite, Farrugia, lui, c'est pareil. Il n'est pas du tout parti dans la même direction. Lui, c'est plus un entrepreneur. Donc, il a créé des chaînes de télé. Il a créé la chaîne Comédie. Il a créé Cuisine TV.
Je ne savais pas.
Il a été directeur de Canal+. Il a produit beaucoup de films aussi. Il a produit des humoristes. Donc, en film, il a produit Vidocq, Monsieur Batignolles, des choses comme ça. Et donc, 7 ans de mariage de Didier Bourdon. Il a produit le spectacle de Manu Payet, le spectacle de Laurent Lafitte. Et il continue à réaliser pourtant quelques films de temps en temps qui font beaucoup moins de succès que les films de Chabat, par exemple. Mais qui restent des... Enfin, j'ai l'impression qu'il... Il peut produire ses films, donc il les fait, même si ça fait 600 000 entrées comme Sous le même toit, qui est le dernier. Il a fait Bis, qui a fait 1,5 million. C'est Dubosc et Cadmirad qui se retrouvent propulsés dans les années 80. Des choses comme ça. Des petits,
j'ai jamais entendu des petits parler sujets. De ce film, mais qu'est-ce qui s'est passé?
1,5 million de... Mais c'est vrai que j'ai l'impression que...
Parce que du coup, j'ai envie de le voir, là.
Ouais, bah, c'est pas terrible. Hein.
Non, mais j'imagine bien, mais...
On n'avait pas fait un MDR là-dessus, mais c'était pas fou. D'ailleurs, ces films, en général, sont pas fous, parce que je parle des scores, mais La qualité des films est pas, ouais, est pas exceptionnelle. Moi, j'aimais bien Delphine 1, Yvon 0. Mmh. Bon, après, je ne l'ai pas revu depuis 10 ans, donc je sais, ça se trouve, c'est, ça a vieilli, hein, je sais pas. Il y a un truc pas mal qu'il avait fait, qui était une cassette vidéo qui s'appelle La stratégie de l'échec. Ah, c'est, oui. C'est un guide de développement personnel pour rater sa vie, en fait.
D'accord.
Et c'était assez drôle. C'était avec les Robin des Bois à l'époque où ils étaient très jeunes et pas très connus.
D'accord.
Et bah, c'est dans l'esprit nul, donc c'est assez hétérogène. Il y a des bonnes blagues et des mauvaises blagues, mais... comme il y en a beaucoup, beaucoup, c'est plutôt satisfaisant l'ensemble. Mmh. Bon, bref, il a fait des films et, qui n'ont pas un succès fou, mais il continue à en faire.
Okay.
Donc on peut dire, bon, c'est une carrière plutôt, plutôt réussie. Il y a un post-nullisme.
Ouais. Oui, plutôt correct. Quand même, oui, oui, même assez bien. Ouais.
Voilà. Et Chantal Lobby a réalisé un film aussi, qui a fait un four, qui s'appelle « Laisse tes mains sur mes hanches ».
Je ne savais pas.
Qui est pas mal, qui est, okay, que moi j'aime bien. C'est pareil, je l'ai vu à sa sortie, je ne l'ai pas revu depuis, mais... Mais moi, j'adore Chantal Lobby aussi. Je,
d'accord.
Vraiment une sorte de bonhomie. Enfin, elle a un truc unique dans le, dans le paysage de la comédie française.
Ouais.
Et d'ailleurs, qui, en fait, elle a fait beaucoup de second rôle tout de suite après les Nuls. Elle a fait une série télé qui s'appelait Eva Mag, qui était sympa aussi. Et de plus en plus, là, elle joue des premiers rôles. Et je la trouve excellente dans les rôles de maman.
Oui.
Et notamment dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais il y a aussi eu, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, Photo de famille, qui était très cool comme film.
D'accord.
Il y a eu La Cage dorée aussi. Il y a eu, oui. Elle a fait pas mal de... Enfin, elle revient sur le devant de la scène, entre guillemets.
Ouais.
Et voilà, elle a fait un peu de théâtre dans les années 90 aussi. Mais c'est une activité un peu moins prégnante chez elle.
D'accord.
Mais... On peut quand même dire qu'aujourd'hui, c'est une actrice qui compte. Quoi. Elle ne tourne pas énormément, mais elle tourne des films qui ont plutôt du succès.
J'ai l'impression que le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, elle a pas mal aidé aussi. Sans
ouais,
doute à,
oui, peut-être.
Ouais. À être à nouveau ouais, rappelé. Quoi.
D'ailleurs, je ne suis pas très très fan de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais je trouve qu'elle, là-dedans, est vraiment excellente. Quoi.
Oui.
Et Clavier aussi, je tiens à le dire. Parce que, ouais, il y en a marre.
Enfin débarrassé de Daniel, on peut dire que...
je peux dire du bien sur Lucien
Clavier. Ouais, bah oui, c'est un syndrome de Stockholm, on connaît ça.
Ah, ce que j'aime pas dans Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, c'est plus tous les autres. Quoi.
Ouais.
Les stand-uppers qui font des blagues.
Ouais.
Ça a
ouais,
tendance à me saouler. Mais Chantal Lobby, oui.
Bon.
Donc, ouais, donc si on fait le bilan, je pense que c'est quand même les nuls
ouais,
qui ont mieux réussi leur post-nullisme.
Bah, je pense que, après, c'est très subjectif. On peut parler de succès professionnel et commercial et de succès critique ou bref. Mais j'ai l'impression que Chabat, lui tout seul, a un peu tué le game, en fait.
C'est vrai.
Avec,
c'est la star.
Avec ce qu'il a fait. Bon.
À tous les niveaux, ouais. Public, critique.
Et ben voilà, bravo Alain. Tu permets au nul d'égaliser. Donc ça fait deux partout.
On va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y.
Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises?
Oh là. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure.
Il faudrait que je lise l'affiche.
Oui, l'affiche. Allez-y.
Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises?
Oui, on a compris.
Et bien maintenant, on va trancher, puisqu'il y a deux partout. C'était même pas fait exprès. Et on va poser la question la plus subjective du monde, et à savoir, qui était le plus drôle?
Bah ouais, bah là, comme on a dit depuis le début, c'est très compliqué de départager des gens qui pratiquent un humour très différent. Donc, pour rappeler, Les Inconnus, c'est quand même un humour plus social, plus politique, entre guillemets, qui est vraiment dans la traduction de la comédie de situation à la française. Ce qui est marrant, d'ailleurs, parce que quand il faisait des parodies télévisuelles, il faisait un truc très, très précis qu'ils n'ont pas du tout reproduit au cinéma. Au cinéma, ils font des comédies à l'ancienne, quoi. C'est pas du tout parodique, ni rien. Alors que Les Nuls... À l'inverse, ils ont fait exactement au cinéma ce qu'ils faisaient à la télé, c'est-à-dire un humour qui était plus inspiré de ce que faisaient les Monty Python et les Zaz et Mel Brooks, ce qu'on a vu dans des films comme Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est-à-dire que c'était plus des avalanches de gags un peu hétéroclites, vraiment presque dire fuck au cinéma, quoi, dire... On fait ce qu'on veut avec le cinéma. Si on veut un jour, un moment, mettre une tapette géante au milieu d'une scène alors qu'il n'y a aucune raison pour que ça arrive, eh ben on le fait. Alors que chez Les Inconnus, il y a plus une sorte de respect du médium. Donc après, dire qu'est-ce qui est le plus drôle entre deux choses si différentes, c'est compliqué à dire. Si vraiment faut décider, j'aurais tendance à faire la même réponse qu'entre Les Trois Frères et Les Nuls.
D'accord.
Moi, j'ai tendance à préférer l'humour des Trois Frères, en fait. C'est-à-dire installer une situation, avoir des personnages vraiment très, très caractérisés, même si j'aime beaucoup Les Nuls. Donc, donc voilà, ce serait ma réponse.
Ça me fait toujours penser au sketch des Guignols avec De Greff au CSA. Ouais. Il doit expliquer pourquoi Michael Cull qui encule un mouton, c'est rigolo.
Ouais, les Inconnus, on pourrait expliquer les vannes plus facilement peut-être que Les Nuls.
Oui,
parce que c'est plus instinctif, ouais, Les Nuls. C'est un truc. Il y a beaucoup de, par exemple, d'humour pipi caca, de choses comme ça. Moi, j'adore ça. Hein. Ouais. Quand c'est bien fait, ça peut être très très raté aussi. Eux, il se trouve qu'ils le pratiquent correctement.
Ouais.
Mais oui, c'est vraiment autre chose, quoi.
Ok, bon, bah c'est comme ça. Hein. Les Inconnus sont plus drôles que Les Nuls. Ça a été dit dans ce podcast. Et,
c'est dit.
Et vous n'y pouvez rien à part, bien sûr, dire sur les réseaux sociaux que vous n'êtes pas content.
Écrivez-moi des lettres, j'y répondrai.
Bon, eh ben, Les Inconnus remportent le combat. Donc vous pourrez dire à votre collègue que, désolé, mais pour telle et telle raison, Les Inconnus sont meilleurs que Les Inconnus, que Les Nuls.
Sur nos 10 ans, comme deux amants, comme deux aimants, j'étais le moins, t'étais le plus. Faut que je fasse le point, je suis plus focus. Flou de toi, complètement flou.
Bah merci Hugo.
Bah merci à toi, c'était un plaisir.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
On peut me retrouver sur Twitter, mon hâte c'est tout est neutral, comme la célèbre phrase de Jean-Claude Van Damme. On peut me retrouver sur YouTube, donc la chaîne Calmos, et la newsletter Calmos, vous pouvez vous y abonner à calmos.net, et dans le podcast MDR, chronique des comédies françaises avec joie.
Très bien, bon, on mettra tous les liens en description de l'épisode. En description de l'épisode, vous retrouverez également le lien vers la page Tipeee de l'émission qui vous permet de la soutenir et de devenir membre pour avoir des super goodies comme par exemple un coussin péteur, c'est qui le plus fort. Alors c'est faux, mais peut-être que c'est ça que je devrais ajouter pour faire décoller le membership. Je crois que je vais vraiment le faire, en fait. Je rappelle aussi que donc on enregistrera un épisode de C'est qui le plus fort en public le 18 décembre dans les locaux du Tank Media à Paris. Le sujet de l'émission sera Freddie Mercury contre David Bowie. Donc il n'y aura pas une question qui est le plus drôle. Il y aura aussi un épisode de Stockholm Sardou qui sera enregistré à ce moment-là. Scoop, normalement on devrait reparler de l'album La Vieille où il y a Je suis pour, Ne m'a plus jamais France, Je vais t'aimer, Le temps des colonies. Donc autant dire que dans la catégorie les choses qu'on pouvait dire avant et qu'on ne dit plus maintenant, je pense qu'on va beaucoup y revenir. Il y aura également un épisode de Bulle d'Art qui sera enregistré, de Les Rois du Monde des Sons, etc., le podcast des comédies musicales de Microsoft. Vous pouvez donc nous dire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @c'est qui le plus fort, CKILPLUSFORT, si vous êtes d'accord ou pas avec le verdict, sur Facebook également. Il ne reste plus qu'à vous dire que C'est qui le plus fort est un podcast en Stockholm, réalisé et animé par moi-même, Martin Gallard. Et bah Hugo, à bientôt. J'espère
à
que
bientôt.
Tu reviendras prochainement pour nous parler d'un autre duel.
Ce sera avec plaisir.
Très bien. Allez, à bientôt. Je
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.